Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, on va s'en occuper.
Oui, nouvelle journée et nouvelle provocation. C'est ainsi que débute ce matin un brin désabusé l'éditorial du Washington Post après que Pyongyang a procédé cette nuit à un énième tir de missile. Et comme à l'habitude, quand l'un joue avec le feu, l'autre lui répond qu'il n'a pas froid aux yeux. Après avoir promis le feu et la fureur, après avoir menacé même de détruire totalement la Corée du Nord, le président américain a lancé cette fois-ci « on va s'en occuper ». Alors c'est bon à savoir, note toujours le quotidien de Washington, même si en réalité cela n'est guère rassurant, dit-il, lorsqu'on sait que la menace vient de l'imprévisible chef de l'État rebelle Kim Jong-un. Sans compter que la propagande du côté de la Corée du Nord tourne ce matin à plein régime, à la télévision officielle, Pyongyang dit avoir réalisé son objectif historique, devenir un État nucléaire, et assure par ailleurs que le nouveau missile lancé cette nuit est capable de frapper la totalité du continent américain. Alors bien sûr, on connaissait déjà la rhétorique de la Corée du Nord, digne des meilleurs cours de récréation, écrit l'éditorialiste, mais ce que le monde souhaiterait connaître à présent, c'est comment fait-on pour sortir de cet engrenage infernal. Désormais, ce que nous attendons, c'est qu'on nous apporte enfin la preuve que le monde n'est pas à la veille d'une nouvelle destruction. Récemment, Donald Trump nous a assuré d'avoir persuadé son ami golfeur, le président chinois, que la situation était aujourd'hui désastreuse. Il a répété haut et fort que les États-Unis ne permettraient pas à la Corée du Nord de se doter d'armes nucléaires. De retour de son voyage asiatique, il avait même lancé « l'avenir n'a jamais paru aussi radieux ». Et bien ce matin, avec cette nouvelle humiliation, c'est peu de dire que son discours n'est plus franchement teinté du même optimisme.
Et lui dit qu'il va s'en occuper et forcé de constater qu'il est aujourd'hui le véritable maître du jeu.
Oui, lui, c'est Vladimir Poutine. Hier, la Russie, alliée militaire et politique de Damas, a finalement convaincu le régime d'envoyer une délégation à Genève, où se tient depuis hier un huitième cycle de pourparlers sous l'égide de l'ONU. La délégation officielle syrienne est attendue ce matin. Et puis, gage là encore de bonne volonté, le représentant russe a également annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu avec l'armée syrienne dans la Ghouta orientale, cette région rebelle proche de Damas. À présent, après avoir gagné la guerre en apportant une contribution majeure à l'écrasement de l'opposition syrienne, Vladimir Poutine veut donc gagner la paix à quelques mois de l'élection présidentielle. Le chef du Kremlin veut se débarrasser de la guerre en Syrie, peut-on lire dans le magazine Slate, car si au début elle lui a apporté un regain de popularité, désormais un succès diplomatique témoignant du retour de la Russie parmi les grands serait plus gratifiant pour lui qu'un conflit qui s'enlise. Poutine a notamment convaincu Bachar el-Assad qu'il n'avait d'autre choix que de faire des concessions. Voilà comment le chef du Kremlin avance aujourd'hui ses pions, se plaçant en position de principal artisan d'une solution politique. Il faut dire que Donald Trump, après avoir donné l'impression de vouloir s'y engager en frappant une base militaire en avril dernier, se désintéresse totalement de la Syrie. Quant aux Européens, il y a longtemps qu'ils ne comptent plus. Moscou est désormais seul maître du jeu.
Et de leur côté, Thomas Cluzel, les Rohingyas se demandent toujours qui va bien s'occuper d'eux.
Oui, a priori, ce ne sera pas le pape François. Pourtant, en visite officielle en Birmanie, hier lors de sa rencontre avec la leader Aung San Suu Kyi, précise l'organisation Democratic Voice of Burma, le souverain pontife a appelé au respect de toutes les ethnies et insisté sur l'importance de la coexistence fraternelle sans jamais toutefois prononcer le mot Rohingya. Quoi qu'il en soit, l'exode des Rohingyas a remis d'actualité le plan du Bangladesh d'installer une partie des réfugiés musulmans sur une île inhabitée. Hier, précise le temps, Dhaka a donné son feu vert à l'aménagement d'une île déserte du golfe du Bengale pour y parquer des réfugiés Rohingyas, un projet controversé, décrié notamment par les défenseurs des droits de l'homme. Les opposants au projet dénoncent non seulement l'isolement du lieu, mais aussi les conditions naturelles hostiles de cet îlot désert, sujet à des inondations lors d'importantes marées, sans compter que les besoins en infrastructures pour mener à bien ce plan sont aujourd'hui énormes.
Et puis direction l'Afrique à présent, où parce que leurs familles n'ont plus les moyens de s'occuper d'elles, de plus en plus de jeunes filles n'ont pas d'autre solution que de se marier.
Oui, c'est là la manifestation la plus palpable du changement climatique, écrit The Guardian. Partout la même histoire, malheureusement trop familière, les températures augmentent, les pluies se font plus rares, plus tardives, imprévisibles, et les familles se retrouvent sur la paille. Celles qui auraient pu nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école n'ont plus les ressources. Dès lors, elles cherchent une dernière solution pour ne pas dépérir. Les voilà contraintes à marier leur plus jeune fille, une bouche de moins. Et c'est ainsi, raconte le quotidien britannique, que le réchauffement climatique engendre à présent une nouvelle génération d'enfants mariés, au Mozambique notamment, où 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Près d'une fille sur deux se marie avant 18 ans et une sur sept avant 15 ans.
Et puis enfin, lui a jugé qu'il devait s'en occuper lui-même, et lui, c'est le ministre allemand de l'agriculture.
Oui, hier, Angela Merkel a rappelé à l'ordre Christian Schmidt pour avoir, sans concertation préalable, permis l'autorisation du glyphosate en Europe, manière pour la chancelière de rejeter les accusations selon lesquelles elle était au courant du plan échafaudé par son ministre. D'où la question posée ce matin par la Süddeutsche Zeitung. L'approche solo de Christian Schmidt était-elle planifiée depuis longtemps? Selon le journal, des documents internes tendraient à prouver que depuis le mois de juillet dernier, le ministre de l'Agriculture examinait les possibilités de voter la proposition de la Commission européenne, en dépit donc de la résistance du ministère de l'Environnement. Et toute la presse outre-Rhin se montre furieuse ce matin, à l'instar de la TAS qui affiche à sa une un dessin de main avec le pouce levé sous ce titre, le glyphosate reste et le ministre aussi.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr, et dans quelques instants vers 7h40, un politique atypique, il s'agira de François Ruffin, il sera dans ce studio, c'est aujourd'hui le député de la première circonscription de la Somme. En attendant, il est 7h30 sur France Culture.